Prenez un catholique, un orthodoxe et un protestant, mettez-les ensemble, ça donne le grand débat tous les vendredis de 7h20 à 8h30. L'actualité, revue et corrigée à l'aune du tiercé gagnant de l'écuménisme en action, des analyses qui s'opposent ou se conjuguent dans un esprit porté par l'espérance. Le grand débat tous les vendredis de 7h20 à 8h30.
En partenariat avec l'Hebdo Réforme et le site orthodoxie.com.
On ne peut pas toujours compter sur les autres. Et pourtant, à certains moments de la vie, on a vraiment besoin d'aide. Et là, on peut toujours compter sur HES Vie. Vous avez besoin d'une assistance à domicile? Vous ne pouvez pas vous déplacer seul pour faire vos courses, aller chez le médecin ou simplement faire garder vos enfants? HES Vie est là. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, vous pouvez compter sur nous. HESVie.com 01 43 52 64 23 43 52 64 23.
Or ou métaux précieux? Vous possédez peut-être des bijoux, montres, diamants dont vous souhaitez vous séparer.
À Paris, dans le 6e arrondissement, Boursorama achète en toute discrétion vos valeurs. Lingots, pièces cotées, diamants, platines, bijoux, montres, débris, ainsi que l'argent sous toutes ses formes.
Règlement immédiat, après estimation, expertise gratuite.
Boursorama, 125 rue de Sèvres, 01 43 06 16 21. 43 06 16 21.
Boursorama,
nous donnons un prix à vos valeurs.
Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
Vous le savez, l'équilibre financier de Radio Notre-Dame est fragile. Si vous estimez que Radio Notre-Dame a toute sa place dans le paysage audiovisuel, si vous souhaitez que Radio Notre-Dame se développe chaque jour davantage, alors n'attendez pas la fin de l'année pour nous soutenir. Et n'oubliez pas qu'après les déductions fiscales, un don de 100 euros revient en réalité à 34 euros. Envoyez vos chèques à Radio Notre-Dame, 11 rue Rosenwald, Paris 15e.
17h-20h, Élodie Chapelle.
Bonsoir et bienvenue sur Radio Notre-Dame, un film qui fait déjà ravage hein, dans les salles aujourd'hui, un record de vente qui n'avait pas été atteint depuis des mois selon les salles de cinéma. Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois est sorti aujourd'hui. Les moines de Tibérine sont à l'honneur sur toutes les chaînes et télévisions aujourd'hui après un premier succès au Festival de Cannes 2010. Nous sommes allés recueillir quelques réactions après la première séance de ce matin à Saint-Lazare. Reportage et décryptage de ce succès avec deux invités aujourd'hui. Édouard Hubert, chroniqueur cinéma pour Famille Chrétienne, et Henri Quinson, conseiller monastique du film, qui restera avec nous jusqu'à 18h30 pour poser un regard sur l'actualité en tant que moine des cités à Marseille. À 18h, bien sûr, vous retrouverez votre rendez-vous quotidien avec le journal de Radio Vatican en direct de Rome. Et tout de suite, votre rendez-vous avec un évêque d'Île-de-France, aujourd'hui Monseigneur Delannoy, évêque de Saint-Denis, interrogé par Clément Soudaille.
Monseigneur Pascal Delannoy, bonjour.
Bonjour.
Alors nous sommes aujourd'hui le 8 septembre, fête de la Nativité de la Vierge. Alors que représente cette fête pour nous catholiques, Monseigneur ?
C'est une fête de la Vierge et une fête importante à laquelle nous sommes très attachés, puisqu'avec la naissance de la Vierge Marie, c'est déjà, pour reprendre cette belle expression, c'est déjà l'aurore du salut qui apparaît. La Vierge Marie, bien sûr, la Mère du Christ, celui qui nous apportera le salut, celui qui nous ouvrira des chemins de vie infinis.
C'est assez rare qu'on fête des naissances dans l'Église. En général, on fête plus la mort ou la naissance au ciel des saints. Alors, il y a Noël, bien sûr, la nativité du Christ, la nativité de la Vierge, la nativité de Jean-Baptiste aussi, je crois, mais c'est quelque chose d'assez spécial. Pourquoi ?
Tout à fait, vous avez raison. Habituellement, on choisit de fêter un saint le jour de sa mort, autrement dit le jour de sa naissance au ciel. Mais fêter la nativité de Marie et la nativité de Jésus, c'est souligner l'événement qui a été le point de départ, en quelque sorte, du salut qui nous est donné, de cette vie pleine et entière que Dieu veut nous donner. Et Marie est bien le prémisse de ce salut qui nous est offert en Jésus-Christ.
Qu'est-ce que nous dit cette fête pour notre vie de foi ? Est-ce qu'on peut demander des grâces particulières aujourd'hui ?
Je pense que comme toute fête mariale, c'est l'occasion de nous tourner vers Marie et de lui demander d'être nous aussi à l'écoute de la volonté de son Fils et à la volonté que Dieu a pour chacun d'entre nous. Faire confiance à Dieu, faire confiance au Christ, je pense que ça a été toute la vie de Marie et c'est le même chemin que nous sommes invités à emprunter.
Alors dans votre diocèse de Saint-Denis, aujourd'hui comme tous les ans le 8 septembre, il y a le lancement d'une neuvaine de prières, une neuvaine de prière à Notre-Dame des Anges. Alors, pourquoi cette neuvaine de prière ?
Cette neuvaine de prière a une origine historique. Elle s'enracine au XIIIe siècle. La tradition nous dit que trois marchands angevins ont traversé la forêt de Bondy, qu'ils se sont fait agresser, dépouiller de tout ce qu'ils possédaient et ont été attachés à trois arbres. Ils étaient menacés de mort lorsqu'un ange intervient pour les débarrasser de leurs liens, et cela grâce à l'intercession de Marie, de la Vierge Marie, que l'on appela Notre-Dame des Anges, en lien bien sûr avec l'apparition miraculeuse de ces anges qui ont délivré ces trois marchands. Très vite, les trois marchands ont édifié trois croix en souvenir de cet événement et édifié également un lieu de culte, et l'habitude s'est prise d'effectuer un pèlerinage annuel. Ce qui fait que c'est l'un des plus anciens pèlerinages de France dédié à la Vierge Marie. Savez-vous qu'en 1912, pour le 700e anniversaire, eh bien on estime qu'il y avait 70 000 pèlerins, ce qui n'est quand même pas rien.
C'est un pèlerinage qui ne s'est jamais interrompu ?
C'est un pèlerinage qui a eu des hauts et des bas, comme souvent les pèlerinages, mais qui a été bien relancé au cours de ces dernières années. Et le dimanche de la neuvaine, nous en faisons désormais un temps fort dans la vie diocésaine. Le matin, toutes les personnes qui le souhaitent peuvent marcher vers ce lieu, vers le lieu de Notre-Dame des Anges à Clichy-sous-Bois. Le midi, tout le monde se retrouve pour un pique-nique très festif. L'après-midi, c'est un temps de détente, aussi de réflexion, et nous terminons par une célébration en l'honneur de la Vierge Marie à 16h. Une célébration en plein air. J'espère donc que le soleil va être au rendez-vous.
Ce sera donc ce dimanche 12 septembre. Le rendez-vous, c'est pour tous les fidèles de votre diocèse, j'imagine.
Et tous ceux qui souhaiteront se joindre, bien sûr, à ce bel événement seront les bienvenus.
Alors, Monseigneur Delannoy, on est encore en pleine période de rentrée. La rentrée, c'est aussi la reprise du catéchisme. Et vous souhaitiez lancer un appel aux parents, bien sûr, pour leur dire de ne pas oublier les inscriptions au catéchisme. C'est quelque chose qui vous tient à cœur en tant qu'évêque ?
Oui, tout à fait. Je trouve que c'est vraiment une chance pour des enfants de découvrir aujourd'hui l'Évangile, de découvrir aujourd'hui ce qu'est une vie en Église. Et tout cela, bien sûr, c'est les parents qui doivent emporter le souci et la préoccupation. La catéchèse, c'est cela que je voudrais que l'on comprenne bien, la catéchèse, ce n'est pas une activité parmi tant d'autres. La catéchèse, c'est accueillir l'Évangile, c'est accueillir une bonne nouvelle qui peut transformer toute une vie, en tout cas qui peut donner sens à tout ce que nous faisons par ailleurs.
Quels sont les principaux obstacles à la catéchisation aujourd'hui, selon vous ?
Souvent, l'on comprend mal l'idée de liberté. On entend beaucoup de parents qui aujourd'hui disent « Notre enfant viendra en catéchèse s'il le souhaite, c'est à lui de choisir ». Je trouve que ce présupposé est un mauvais présupposé. Si les parents sont croyants, s'ils sont chrétiens, quoi de plus normal que de vouloir transmettre ce qu'ils ont reçu à leurs enfants ? L'enfant choisira, bien sûr, il sera libre de suivre le Christ, mais au moins il recevra les outils nécessaires pour faire un choix, là vraiment en toute liberté.
La catéchèse, c'est la préparation au sacrement. Est-ce que ce point est assez mis en valeur ? Est-ce que les gens ont conscience de cette importance aussi ?
La vie sacramentelle aujourd'hui dans la catéchèse est profondément inscrite. Autrefois, on était habitué surtout à préparer le sacrement de l'Eucharistie, mais aujourd'hui aussi, de plus en plus, on prépare des enfants au baptême. Des enfants qui arrivent au caté par le biais des amis, des copains qui leur font signe, et ces enfants ne sont pas toujours baptisés. Et ils découvrent l'Évangile, et ils découvrent la vie en Église, ils découvrent l'attachement au Christ, et tout ça fait naître en eux le désir de recevoir le baptême. Alors aujourd'hui, durant les années de catéchèse de l'enfance, on célèbre de plus en plus souvent, effectivement, des baptêmes, tout en préparant, bien sûr, au sacrement de l'Eucharistie.
Et alors, qui sont les catéchistes ?
Les catéchistes sont souvent des bénévoles, même essentiellement des bénévoles, hommes et femmes, qui acceptent de consacrer du temps pour cette belle mission d'église. Alors accepter d'être catéchiste aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez exigeant, parce qu'il ne suffit pas de consacrer une heure ou toutes les semaines ou deux heures tous les 15 jours. Il faut aussi prendre du temps, bien sûr, pour se former, pour se préparer, parce que la catéchèse est un lieu important, et c'est important, bien sûr, de donner un enseignement qui soit conforme à celui de l'Église.
Et est-ce qu'il y a des formations, justement, pour les catéchistes? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur?
Alors, il y a des formations plus près du terrain, il y a des formations dans les paroisses, quand les catéchistes se retrouvent ensemble pour préparer le parcours qui sera vu et réfléchi avec les enfants. Et puis, de manière plus large, il y a aussi des temps de formation qui sont proposés au niveau diocésain. Pour moi, c'est essentiel, mais je le dirais de toute responsabilité dans l'Église. Aujourd'hui, prendre une responsabilité dans l'Église, quelle qu'elle soit, c'est également prendre le temps nécessaire à la formation.
Est-ce que vous manquez de catéchistes ?
Alors chaque année, il y a des endroits où c'est beaucoup plus difficile de trouver des catéchistes, des personnes qui soient disponibles et qui acceptent de s'engager dans ce service d'église. Alors voilà pourquoi, mais ce n'est pas la seule raison, voilà pourquoi il y a aussi d'autres formes de catéchèse qui apparaissent. Par exemple, des temps forts, le dimanche matin, une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, qui répondent mieux au rythme de vie d'aujourd'hui.
Alors, pour terminer sur ce sujet, la catéchèse, c'est à partir de quel âge et c'est pour qui?
Alors, la catéchèse, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'âge. Et mon rêve, c'est que vraiment, on commence un éveil à la foi des tout-petits. Quand j'entends les tout-petits, ce sont les 3-4 ans. On peut réunir les tout-petits une fois par mois, deux fois par trimestre, pour un premier éveil à la foi. Alors après ça, une catéchèse plus structurée, plus ordonnée, sera proposée à partir de 7-8 ans. Mais le côté merveilleux de proposer un éveil à la foi dès l'âge de 3-4 ans, c'est aussi permettre aux parents de s'associer de très près à ce rôle d'éducateur dans la foi chrétienne.
Monseigneur Delannoy, merci beaucoup, et puis on se retrouve dans deux semaines. Merci.
Merci.
Voilà, Monseigneur Delannoy, évêque de Saint-Denis, interrogé par Clément Soudaille. Demain, vous entendrez Benoît XVI sur notre antenne. Ce sera la retransmission de l'audience générale du pape.
17h-20h, Élodie Chapelle.
Et ce soir, une émission en partenariat avec l'hebdomadaire Famille Chrétienne. Le 8 septembre, certains attendaient ce jour avec impatience. Jour de la nativité de la Vierge Marie et jour du lever de rideau de la vie des moines à Notre-Dame de l'Atlas de Tibérine. Des hommes et des dieux, grand prix du Festival de Cannes, prix du jury œcuménique et prix de l'éducation, de l'éducation nationale, on va y arriver. Ça y est, c'est parti, et bien parti hein, dans les salles, des chiffres hors normes. Henri Quinson, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de l'équipe du film, vous avez un chiffre précis là, donné par votre... la production de ce film?
Ouais, j'ai Xavier Beauvois, le réalisateur, qui m'a appelé ce matin en me disant que si on devait noter de 0 à 10, alors il m'a donné des chiffres, mais qui pour moi, qui ne suis pas un professionnel, ne veulent rien dire, mais si on devait noter de 0 à 10 les entrées, on était à 11. Donc il m'a dit, on n'a jamais vu ça.
C'est ce que nous a confirmé un responsable de salle également à Saint-Lazare, on va en parler dans un instant. Alors voilà, pour vous présenter, Xavier Beauvois vous a demandé d'être le conseiller technique, conseiller monastique du film. Une mission que vous avez remplie, en tout cas si on vous a fait signe, c'est à double titre, votre connaissance du terrain comme moine, de trader à Wall Street, vous décidez de démissionner, d'entrer au monastère de Tamier, puis ensuite vous sentez l'appel à fonder une communauté dans une cité de Marseille, la communauté qui porte le nom de la Fraternité Saint-Paul, ça c'est une première partie de votre vie. Et puis l'autre aspect, c'est que vous connaissez bien les moines de Tibérine, c'est vous qui avez traduit le livre de John Keyser, Un passion pour l'Algérie, les moines de Tibérine, paru en 2006.
Exactement.
Je ne me trompe pas, c'est exact.
C'est tout à fait ça.
Alors à côté de vous, Édouard Hubert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, spécialiste cinéma pour l'hebdomadaire Famille Chrétienne, qui consacre bien sûr un dossier spécial sur la question avec une très belle interview du frère Jean-Pierre, l'un des deux frères avec Amédée qui ont échappé à la mort dans la nuit du 26 au 27 mars 1996. Peut-être une première réaction à chaud, Édouard Hubert, ce film?
Sur le film, oh.
Un chef-d'œuvre?
On se méfie toujours du mot, mais là, courage. c'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que c'est un film qui est toujours plus grand que vous, qui est toujours avant vous, et que vous essayez de de suivre, au lieu que souvent les films ils sont un petit peu à la traîne du spectateur. Quoi. Là, non, il est devant.
Il est devant. Alors, avant d'entrer vraiment dans ce film et puis de découvrir les coulisses de ce film avec vous deux, je vous propose de jeter un coup d'œil sur les réactions du public avec la première séance au cinéma des 5 Comartins à Saint-Mazare.
C'est très émouvant.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ?
Côté religieux.
C'est-à-dire ?
Parce que je ne suis pas croyante du tout et donc ça me touche d'autant plus. De voir dans les deux communautés les gens qui sont liés par quelque chose quand même. Donc oui, mais ça ne m'a pas convaincue pour croire, c'est pas la question, c'est pas d'ailleurs le propos du tout. Mais ces gens qui s'enferment comme ça dans des monastères et qui consacrent leur vie comme ça à la prière, hein, c'est bouleversant. Jusqu'à la mort, parce qu'ils ont quand même réfléchi à ça, ils sont pas allés comme ça. Non, ils ont longuement réfléchi tous et à l'unanimité, ils sont allés et ça, oui.
Très bien. C'est très bien. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ?
La simplicité de l'histoire et le côté ouvert, le côté tolérant, les messages qui. Enfin, les dialogues, enfin, les grandes leçons de. Je sais pas, d'humanité, d'amour. Très bien.
Un extrait hein, d'un chant qui marquera profondément le public puisque c'est le dernier chant que l'on peut entendre pendant le générique. Alors un peu plus loin, sorti de la salle, voilà d'autres réactions que je vous propose d'écouter.
J'ai trouvé un peu long.
Un peu long.
Non, il est beau, je l'ai trouvé un peu long.
Ouais, ce qui m'a le plus marqué, c'est tout le film. C'est assez émouvant. C'est vraiment très prenant et émouvant. Voilà. Les dernières scènes qui sont assez marquantes et vraiment très très impressionnantes. Le dernier repas, quand ils sont tous ensemble, au dernier repas par exemple, c'est très impressionnant.
Et quel message, à votre avis, a été donné dans ce film ? Quel est le message que vous retenez ?
C'est tellement... Je ne sais pas vous dire. De solidarité entre les religions, entre les hommes, voilà.
Hein ? Le film en lui-même, il est lent, il permet le recueillement, il permet de réfléchir. Voilà, c'est tout.
En tout cas, vous l'avez aimé ce film ?
Ah oui, beaucoup.
Voilà, réflexion, recueillement, difficile, hein, juste à la sortie d'un film, de pouvoir dire avec des mots tout ce que l'on ressent. Édouard Hubert, est-ce que ça correspond à ce que vous avez ressenti, vous, à chaud, comme ça, à la sortie du film ?
Oui, mot à mot, je suis vraiment très touché par les réactions de ces spectateurs, qui, à travers leurs mots, je revois le film, et il en est peut-être plus beau encore d'avoir été comme ça reçu et transmis, spectateurs... deviennent témoins à leur tour.
Il y a des points particuliers qui vous ont marqué là, dans ces réactions, et peut-être vous, est-ce qu'il y a une ou deux scènes qui vous auraient particulièrement marqué ?
Ah, bah, y a une scène qui m'a marqué, dont je ne peux pas me défaire. J'ai revu le film après l'avoir vu à Cannes pour me rafraîchir, mais j'avais un petit peu peur de le revoir en me disant l'émotion va tomber mécaniquement. Si une première fois ça m'a bouleversé, la deuxième fois... ça va m'intéresser. Maintenant, la deuxième fois, ça a été plus fort encore.
Encore plus de larmes.
Oui, encore plus de larmes.
Vous l'avouez, hein, vous avez pleuré.
Aucune espèce de honte à avouer que je pleure facilement au cinéma. Mais là, j'ai revendu des tonneaux, mais il faut peut-être pas que je le lise, parce que ça fait un peu vulgaire. Non, c'était des belles larmes de joie, de lumière, et devant, puisque vous me demandez quelle scène, cette fameuse scène avec un C et un E accent grave, tout le monde l'entend et l'orthographie comme ça, parce que elle est très profondément une scène, il faudra y revenir. C'est un morceau d'anthologie du cinéma, au point de vue artistique et au point de vue spirituel.
Voilà, la scène, hein, le dernier repas, on pourra en reparler. Henri Quinson, ce film est un peu long, selon certains spectateurs.
Oui, ben, malgré ce commentaire qui moi je suis comme Edouard, je suis très ému. Faut savoir que ce film, bon, j'ai connu 4 des 7 frères qui ont été tués, donc pour moi c'est une aventure qui est... très personnel et que nous avons vécu tous dans cette équipe, que ce soit le réalisateur Xavier Beauvois, les acteurs, de manière très particulière. On pourra y revenir. Donc quand j'écoute ces propos, bah moi je suis comme Edouard, je retrouve beaucoup de choses. Alors long, oui, vous commencez par la seule critique oui, que j'ai entendue. Oui, alors si vous voulez, Xavier Beauvois a une caméra très contemplative et c'est une des raisons pour lesquelles le scénariste Étienne Comard lui avait proposé le scénario, c'est qu'il pensait que il était parmi les réalisateurs français probablement le plus à même de faire une chronique qui puisse vraiment rendre compte de la vie monastique. Qui prend son temps, la vie monastique prend son temps, et comme l'a dit une autre personne qui a vu le film, justement, elle insistait sur cette notion de durée pour en dire justement tout le bénéfice qu'elle pouvait en tirer, c'est-à-dire que on peut pas entrer dans un univers monastique sans justement prendre le temps. Moi, je pense que le film a un très bon tempo, qu'il est très bien monté, mais je conçois tout à fait que les gens puissent être habitués à un cinéma souvent d'origine américaine. Je suis même américain, donc je préfère de l'anti-américanisme primaire, mais c'est vrai qu'on va dans un cinéma qui est très très rapide, souvent très efficace, et j'ai aucune critique à émettre là.